Chapitre 7. Resté seul avec le corps d'Octave de Saville, habité par l'âme du comte Olaf Labinski, le docteur Balthazar Cherbonneau se mit au devoir de rendre cette forme inerte à la vie ordinaire. Au bout de quelques passes, Olaf de Saville, qu'on nous permette de réunir ces deux noms pour désigner un personnage double, sortit comme un fantôme des limbes du profond sommeil, ou plutôt de la catalepsie, qu'il enchaînait immobile et roide sur l'angle du divan. Il se leva avec un mouvement automatique que la volonté ne dirigeait pas encore et chancelant sous un vertige mal dissipé. Les objets vacillaient autour de lui, les incarnations de Vishnu dansaient la sarabande le long des murailles. Le docteur Cherbonneau lui apparaissait sous la figure de Sannyasi d'Elephanta, agitant ses bras comme des ailerons d'oiseau et roulant ses prunelles bleues dans des orbes de rides brunes, pareil à des cercles de vésicles. Les spectacles étranges auxquels il avait assisté avant de tomber dans l'anéantissement magnétique réagissaient sur sa raison et il ne se reprenait que lentement à la réalité. Il était comme un dormeur réveillé brusquement d'un cauchemar qui prend encore pour des spectres ses vêtements épars sur les meubles avec de vagues formes humaines et pour des yeux flamboyants de cyclopes les patères de cuivre des rideaux simplement illuminés par le reflet de la veilleuse. Peu à peu, cette fantasmagorie s'évapora. Tout revint à son aspect naturel. Monsieur Balthazar Cherbonneau ne fut plus un pénitent de l'Inde, mais un simple docteur en médecine, qui s'adressait à son client un sourire d'une bonhomie banale. « Monsieur le comte est-il satisfait des quelques expériences que j'ai eu l'honneur de faire devant lui ?» disait-il avec un ton d'obséquieuse humilité, où l'on aurait pu démêler une légère nuance d'ironie. « J'ose espérer qu'il ne regrettera pas trop sa soirée et qu'il partira convaincu que tout ce qu'on raconte sur le magnétisme n'est pas fable et jonglerie, comme le prétend la science officielle. » Olaf de Saville répondit par un signe de tête en manière d'assentiment et sortit de l'appartement accompagné du docteur Cherbonneau qui lui faisait de profonds saluts à chaque porte. Le Brougham s'avança en rasant les marches et l'âme du mari de la comtesse Labinski monta avec le corps d'Octave de Saville sans trop se rendre compte que ce n'était là ni sa livrée ni sa voiture. Le cocher demanda où monsieur allait. Chez moi, répondit Olaf de Saville, confusément étonné de ne pas reconnaître la voix du chasseur vert, qui ordinairement lui adressait cette question avec un accent hongrois des plus prononcés. Le Brougham où il se trouvait était tapissé de damas bleu foncé. Un satin bouton d'or capitonnait son coupé, et le comte s'étonnait de cette différence, tout en acceptant, comme on fait dans le rêve, où les objets habituels se présentent sous des aspects tout autres, sans pourtant cesser d'être reconnaissables. Il se sentait aussi plus petit que de coutume. En outre, il lui semblait être venu en habit chez le docteur, et, sans se souvenir d'avoir changé de vêtements, il se voyait habillé d'un paletot d'été en étoffe légère qui n'avait jamais fait partie de sa garde-robe. Son esprit éprouvait une gêne inconnue et ses pensées, le matin si lucides, se débrouillaient péniblement. Attribuant cet état singulier aux scènes étranges de la soirée, il ne s'en occupa plus. Il appuya sa tête à l'angle de la voiture et se laissa aller à une rêverie flottante, à une vague somnolence qui n'était ni la veille ni le sommeil. Le brusque arrêt du cheval et la voix du cocher criant « La porte !» le rappelèrent à lui. Il baissa la glace, mit la tête dehors et vit à la clarté du réverbère une rue inconnue, une maison qui n'était pas la sienne. « Mais où diable me mènes-tu, animal ? » s'écria-t-il. « Sommes-nous donc faubourg Saint-Honoré ou de Labinski ?»« Pardon, monsieur, je n'avais pas compris, » grommela le cocher, en faisant prendre à sa bête la direction indiquée. Pendant le trajet, le comte transfiguré se fit plusieurs questions auxquelles il ne pouvait répondre. « Comment sa voiture ? » Était-elle partie sans lui puisqu'il avait ordonné ordre qu'on l'attendît? Comment se trouvait-il lui-même dans la voiture d'un autre? Il supposa qu'un léger mouvement de fièvre troublait la netteté de ses perceptions, ou que peut-être le docteur Thaumaturge, pour frapper plus vivement sa crédulité, lui avait fait respirer pendant son sommeil quelques flacons de haschich ou de toute autre grogue hallucinatrice, dont une nuit de repos dissiperait les illusions. La voiture arriva à l'hôtel Labinski. Le Suisse, interpellé, refusa d'ouvrir la porte, disant qu'il n'y avait pas de réception ce soir-là, que monsieur était rentré depuis plus d'une heure et madame retirée dans ses appartements. « Ben drôle, es-tu ivre ou fou ?» dit Olaf de Saville, en repoussant le colosse qui se dressait gigantesquement sur le seuil de la porte entrebâillée, comme une de ces statues en bronze qui, dans les contes arabes, défendent aux chevaliers errants l'accès des châteaux enchantés. « Vous, fou vous-même, mon petit monsieur !» répliqua le Suisse, qui, de cramoisi qu'il était naturellement, devint bleu de colère. « Misérable !» rugit Olaf de Saville, « si je ne me respectais !» « Taisez-vous, je vais vous casser sur mon genou et jeter vos morceaux sur le trottoir !» répliqua le géant en ouvrant une main plus large et plus grande que la colossale main de plâtre exposée chez le gantier de la rue Richelieu. « Il faut pas faire le méchant avec moi, mon petit jeune homme, parce qu'on a bu une ou deux bouteilles de vin de champagne de trop !» Olaf de Saville, exaspéré, repoussa le Suisse si rudement qu'il pénétra sous le porche. Quelques valets qui n'étaient pas couchés encore accoururent au bruit de l'altercation. Je te chasse, bête brune, brigand, scélérat. Je veux pas même que tu passes la nuit à l'hôtel. Sauve-toi ou je te tue comme un chien enragé. Me fais pas verser l'ignoble sang d'un laquais. Et le comte, dépossédé de son corps, s'élançait les yeux injectés de rouge, l'écume aux lèvres, les poings crispés, vers l'énorme Suisse qui, rassemblant les deux mains de son agresseur dans une des siennes, les y maintint presque écrasés par l'étau de ses gros doigts courts, charnus et noueux comme ceux d'un tortionnaire du Moyen-Âge. « Voyons, du calme !» disait le géant, assez bonasse au fond, qui ne redoutait plus rien de son adversaire et lui imprimait quelques saccades pour le tenir en respect. Y a-t-il du bon sens de se mettre dans des états pareils quand on est vêtu en homme du monde et de venir ensuite comme un perturbateur faire des tapages nocturnes dans les maisons respectables? On doit des égards au vin et il doit être fameux celui qui vous a si bien grisé. C'est pourquoi je ne vous assomme pas. Je me contenterai de vous poser délicatement dans la rue où la patrouille vous ramassera si vous continuez vos esclandres. Un petit air de violon vous rafraîchira l'esprit. Infâme ! S'écria Olaf de Saville en interpellant les laquais. Vous laissez insulter par cette abjecte canaille votre maître, le noble comte Lombinski. À ce nom, la valetaille poussa d'un commun accord une immense huée. Un éclat de rire énorme, homérique, convulsif, souleva toutes ses poitrines chamarrées de galons. « Ce petit monsieur qui se croit le comte Labinski, il y est bonne !» Une sueur glacée mouilla les tempes d'Olaf de Saville. Une pensée aiguë lui traversa la cervelle comme une lame d'acier, et il se sentit figer la voile de ses os. Smarra lui avait-il mis son genou sur la poitrine, ou vivait-il de la vie réelle? Sa raison avait-elle sombré dans l'océan sans fond du magnétisme, ou était-il le jouet de quelque machination diabolique? Aucun de ses laquais, si tremblant, si soumis, si prosterné devant lui, ne le reconnaissait. Mais lui avait-on changé son corps, comme son vêtement et sa voiture? « Pour que vous soyez bien sûr de ne pas être le comte Lavinsky, » dit l'un des plus insolents de la bande, « regardez là-bas, le voilà lui-même qui descend le perron, attiré par le bruit de votre algarade. » Le captif du Suisse tourna les yeux vers le fond de la cour et vit debout, sous le vent de la marquise, un jeune homme de taille élégante et svelte, à figure ovale, aux yeux noirs, au nez aquilin, à la moustache fine, qui n'était autre que lui-même, ou son spectre, modelé par le diable, avec une ressemblance à faire illusion. Le Suisse lâcha les mains qu'il tenait prisonnières, les valets se rangèrent respectueusement contre la muraille, le regard baissé, les mains pendantes, dans une immobilité absolue, comme les icoglans à l'approche du padishah. Il rendait à ce fantôme les honneurs qu'il refusait au comte véritable. L'époux de Praskovi, quoique intrépide comme un slave, c'est tout dire, ressentit un effroi indicible à l'approche de ce ménechme, qui, plus terrible que celui du théâtre, se mêlait à la vie positive et rendait son jumeau méconnaissable. Une ancienne légende de famille lui revint en mémoire et augmenta encore sa stupeur. Chaque fois qu'un Lavinsky devait mourir, il en était averti par l'apparition d'un fantôme absolument pareil à lui. Parmi les nations du Nord, voir son double même en rêve a toujours passé pour un présage fatal, et l'intrépide guerrier du Caucase, à l'aspect de cette vision extérieure de son moi, fut saisi d'une insurmontable horreur superstitieuse. Lui qui eut plongé son bras dans la gueule des canons prêts à tirer, il recula devant lui-même. Octave Lavinsky s'avança vers son ancienne forme, où se débattait, s'indignait et frissonnait l'âme du comte, et lui dit d'un ton de politesse hautaine et glaciale, « Monsieur, cessez de vous compromettre avec ces valets. Monsieur le comte Lavinsky, si vous voulez lui parler, est visible de midi à 2 heures. Madame la comtesse reçoit le jeudi les personnes qui ont eu l'honneur de lui être présentées. » Cette phrase, débitée lentement et en donnant de la valeur à chaque syllabe, le faux comte se retira d'un pas tranquille et les portes se refermèrent sur lui. On porta dans la voiture Olaf de sa ville évanouie. Lorsqu'il reprit ses sens, il était couché sur un lit qui n'avait pas la forme du sien, dans une chambre où il ne se rappelait pas être jamais entré. Près de lui se tenait un domestique étranger qui lui soulevait la tête et lui faisait respirer un flacon d'éther. « Monsieur, se sent-il mieux ?» demanda Jean au comte qu'il prenait pour son maître. « Oui, » répondit Olaf de Saville, « ce n'était qu'une faiblesse passagère. Puis-je me retirer ou faut-il que je veille, monsieur ?»« Non, laissez-moi seul. » Mais avant de vous retirer, allumez les torchères près de la glace. Monsieur n'a pas peur que cette vive clarté ne l'empêche de dormir? Nullement, d'ailleurs je n'ai pas sommeil encore. Je ne me coucherai pas. Si monsieur a besoin de quelque chose, j'accourrai au premier coup de sonnette, dit Jean, intérieurement alarmé de la pâleur et des traits décomposés du comte. Lorsque Jean se fut retiré après avoir allumé les bougies, le comte s'élança vers la glace, et dans le cristal profond et pur où tremblait la scintillation des lumières, il vit une tête jeune, douce et triste, aux abondants cheveux noirs, aux prunelles d'un azur sombre, aux joues pâles, duvetées d'une barbe soyeuse et brune, une tête qui n'était pas la sienne, et qui du fond du miroir le regardait avec un air surpris. Il s'efforça d'abord de croire qu'un mauvais plaisant encadrait son masque dans la bordure incrustée de cuivre de Burgos de la glace à biseau vénitien. Il passa la main derrière, il ne sentit que les planches du parquet, il n'y avait personne. Ses mains, qu'il tâta, étaient plus maigres, plus longues, plus veinées. Aux doigts annulaires saillait en bosse une grosse bague d'or avec un chaton d'aventurine sur laquelle un blason était gravé, un écu facé de gueulets d'argent et pour timbre un tortil de baron. Cet anneau n'avait jamais appartenu au comte, qui portait d'or à l'aigle de sable essorant, becqué, pâté et onglé de même, le tout surmonté de la couronne à perles. Il fouilla ses poches, il y trouva un petit portefeuille contenant des cartes de visite avec ce nom, Octave de Saville. Le rire des laquais à l'hôtel Labinski, l'apparition de son double, la physionomie inconnue substituée à sa réflexion dans le miroir, pouvaient être à la rigueur les illusions d'un cerveau malade. Mais ses habits différents, cet anneau qu'il ôtait de son doigt, étaient des preuves matérielles, palpables, des témoignages impossibles à récuser. Une métamorphose complète s'était opérée en lui à son insu. Un magicien, à coup sûr un démon peut-être, lui avait volé sa forme, sa noblesse, son nom, toute sa personnalité, en ne lui laissant que son âme sans moyen de la manifester. Les histoires fantastiques de Pierre Schlemihl et de la nuit de Saint-Sylvestre lui revinrent en mémoire. Mais les personnages de la mode Fouquet et d'Hoffmann n'avaient perdu l'un que son ombre et l'autre son reflet. Et si cette privation bizarre d'une projection que tout le monde possède inspirait des soupçons inquiétants, personne du moins ne leur niait qu'ils ne fussent eux-mêmes. Sa position à lui était bien autrement désastreuse. Il ne pouvait réclamer son titre de comte Labinski avec la forme dans laquelle il se trouvait emprisonné. Il passerait aux yeux de tout le monde pour un impudent imposteur, ou tout au moins pour un fou. Sa femme même le méconnaîtrait affublé de cette apparence mensongère. Mais comment prouver son identité alors? Certes, il y avait mille circonstances intimes, mille détails mystérieux inconnus de toute autre personne, qui, rappelé à Praskovie, lui ferait reconnaître l'âme de son mari sous ce déguisement. Mais que vaudrait cette conviction isolée, au cas où il l'obtiendrait, contre l'unanimité de l'opinion? Il était bien réellement et bien absolument dépossédé de son moi. Autre anxiété, sa transformation se bornait-elle au changement extérieur de la taille et des traits, ou habitait-il en réalité le corps d'un autre? En ce cas, qu'avait-on fait du sien? Un puits de chaux l'avait-il consumé, ou était-il devenu la propriété d'un hardi voleur? Le double aperçu à l'hôtel Labinski pouvait être un spectre, une vision, mais aussi un être physique, vivant, installé dans cette peau que lui aurait dérobé avec une habileté infernale ce médecin à figure de fakir. Une idée affreuse lui mordit le cœur de ses crochets de vipère. Mais ce comte Labinski fictif, pétri dans ma forme par les mains du démon, ce vampire qui habite maintenant mon hôtel, à qui mes valets obéissent contre moi. Peut-être, à cette heure, met-il son pied fourchu sur le seuil de cette chambre où je n'ai jamais pénétré que le cœur ému comme le premier soir, et Pracovie lui sourit-elle doucement, et penche-t-elle avec une rougeur divine sa tête charmante sur cette épaule paraffée de la grille du diable, prenant pour moi cette larve menteuse, ce brucolaque, cette empouse, ce hideux fils de la nuit et de l'enfer. Si je courais à l'hôtel, si j'y mettais le feu pour crier dans les flammes à Praskovie, on te trompe, ce n'est pas Olaf, ton bien-aimé, que tu tiens sur ton cœur. Tu vas commettre innocemment un crime abominable, et dont mon âme désespérée se souviendra encore quand les éternités se seront fatiguées les mains à retourner leur sablier. Des vagues enflammées affluaient au cerveau du comte. Il poussait des cris de rage inarticulés, se mordait les poings, tournait dans la chambre comme une bête fauve. La folie allait submerger l'obscure conscience qui lui restait de lui-même. Il courut à la toilette d'Octave, remplit une cuvette d'eau et y plongea sa tête, qui sortit fumante de ce mât glacé. Le sang-froid lui revint. Il se dit que le temps du magisme et de la sorcellerie était passé, que sa mort seule délier l'âme du corps, qu'on n'escamotait pas de la sorte au milieu de Paris, un comte polonais agrédité de plusieurs millions chez Rothschild, allié aux plus grandes familles, mari aimé d'une femme à la mode, décoré de l'ordre de Saint-André et de première classe, et que tout cela n'était sans doute qu'une plaisanterie d'assez mauvais goût de M. Balthazar Cherbonneau, qui s'expliquerait le plus naturellement du monde comme les épouvantails des romans d'Anne Radcliffe. Comme il était brisé de fatigue, il se jeta sur le lit d'Octave et s'endormit d'un sommeil lourd, opaque, semblable à la mort qui durait encore, lorsque Jean, croyant son maître éveillé, vint poser sur la table les lettres et les journaux. Chapitre 8. Le comte ouvrit les yeux et promena autour de lui un regard investigateur. Il vit une chambre à coucher confortable, mais simple. Un tapis ocellé, imitant la peau de léopard, couvrait le plancher. Des rideaux de tapisserie, que Jean venait d'entr'ouvrir, pendaient aux fenêtres et masquaient les portes. Les murs étaient tendus d'un papier velu vert, uni, simulant le drap. Une pendule, formée d'un bloc de marbre noir au cadran de platine, surmontée de la statuette en argent oxydé de la Diane de Gaby, réduite par Barbedienne et accompagnée de deux coupes antiques, aussi en argent, décorait la cheminée en marbre blanc à veines bleuâtres. Le miroir de Venise, où le comte avait découvert la veille qu'il ne possédait plus sa figure habituelle, et un portrait de femme âgée, peint par Flandrin, sans doute celui de la mère d'Octave, étaient les seuls ornements de cette pièce un peu triste et sévère. Un divan, un fauteuil à la Voltaire placé près de la cheminée, une table à tiroirs couverte de papier et de livres, composaient un ameublement commode mais qui ne rappelait en rien les somptuosités de l'hôtel Labinski. « Monsieur, se lève-t-il ?» dit Jean de cette voix ménagée qu'il s'était faite pendant la maladie d'Octave, et en présentant au comte la chemise de couleur, le pantalon de flanelle à pied et la gandoura d'Alger, vêtement du matin de son maître. Quoiqu'il répugnât au comte de mettre les habits d'un étranger, à moins de rester nu, il lui fallait accepter ce que lui présentait Jean. Et il posa ses pieds sur la peau d'ours soyeuse et noire qui servait de descente de lit. Sa toilette fut bientôt achevée, et Jean, sans paraître concevoir le moindre doute sur l'identité du faux Octave de Saville qu'il aidait à s'habiller, lui dit « À quelle heure, monsieur, désire-t-il déjeuner ? À leur ordinaire, répondit le comte, qui, afin de ne pas éprouver d'empêchement dans les démarches qu'il comptait faire pour recouvrer sa personnalité, avait résolu d'accepter extérieurement son incompréhensible transformation. Jean se retira et Olaf de Saville ouvrit les deux lettres qui avaient été apportées avec les journaux, espérant y trouver quelques renseignements. La première contenait des reproches amicaux et se plaignait de bonnes relations de camaraderie interrompues sans motif. Un nom inconnu pour lui la signait. La seconde était du notaire d'Octave et le pressait de venir toucher un quartier de rente échu depuis longtemps ou, du moins, d'assigner un emploi à ses capitaux qui restaient improductifs. Oh, ça, il paraît, se dit le comte, que l'Octave de Saville dont j'occupe la peau bien contre mon gré existe réellement. Ce n'est point un être fantastique, un personnage d'Hakim d'Arnim ou de Clément Brentano. Il a un appartement, des amis, un notaire, des rentes à émarger, tout ce qui constitue l'état civil d'un gentleman. Il me semble bien cependant que je suis le comte Olaf Slabinski. Un coup d'œil jeté sur le miroir le convainquit que cette opinion ne serait partagée de personne. À la pure clarté du jour, aux douteuses lueurs des bougies, le reflet était identique. En continuant la visite domiciliaire, il ouvrit les tiroirs de la table. Dans l'un, il trouva des titres de propriété, 2 billets de 1 000 francs et 50 louis, qu'il s'appropria sans scrupule pour les besoins de la campagne qu'il allait commencer, et dans l'autre, un portefeuille en cuir de Russie, fermé par une serrure à secret. Jean entra en annonçant M. Alfred Imbert, qui s'élança dans la chambre avec la familiarité d'un ancien ami, sans attendre que le domestique vînt lui rendre la réponse du maître. « Bonjour Octave, dit le nouveau venu, beau jeune homme à air cordial et franc. Que fais-tu? Que deviens-tu? Es-tu mort ou vivant? On ne te voit nulle part. On t'écrit, tu ne réponds pas. Oh, je devrais te bouder, mais ma foi, je n'ai pas l'amour propre en affection, et je viens te serrer la main. » Que diable, on ne peut pas laisser mourir de mélancolie son camarade de collège, au fond de cet appartement lugubre, comme la cellule de Charles Quint au monastère de Yust. Tu te figures que tu es malade, tu t'ennuies, voilà tout. Mais je te forcerai de distraire, et je vais t'emmener d'autorité à un joyeux déjeuner où Gustave Rimbaud enterre sa liberté de garçon. En débitant cette tirade d'un ton moitié fâché, moitié comique, il secouait vigoureusement à la manière anglaise la main du comte qu'il avait prise. « Non, répondit le mari de Praskovi, entrant dans l'esprit de son rôle, je suis plus souffrant aujourd'hui que d'ordinaire, je me sens pas en train. Je vous attristerai, je vous gênerai. » Ah, en effet, tu es bien pâle et tu as l'air fatigué. Alors, à une occasion meilleure, je me sauve, car je suis en retard de 3 douzaines d'huîtres vertes et d'une bouteille de vin de sauterne, dit Alfred en se dirigeant vers la porte. Rimbaud sera fâché de ne pas te voir. Cette visite augmenta la tristesse du comte. Jean le prenait pour son maître, Alfred pour son ami. Une dernière épreuve lui manquait. La porte s'ouvrit. Une dame dont les bandeaux étaient entremêlés de fils d'argent et qui ressemblait d'une manière frappante au portrait suspendu à la muraille, entra dans la chambre, s'assit sur le divan et dit au comte « Comment vas-tu, mon pauvre Octave ? Jean m'a dit que tu étais rentré tard hier et dans un état de faiblesse alarmante. « Ménage-toi bien, mon cher fils, car tu sais combien je t'aime, malgré le chagrin que me cause cette inexplicable tristesse dont tu n'as jamais voulu me confier le secret. » Ne craignez rien, ma mère, cela n'a rien de grave, répondit Olaf de Saville. Je suis beaucoup mieux aujourd'hui. Madame de Saville, rassurée, se leva et sortit, ne voulant pas gêner son fils, qu'elle savait ne pas aimer à être troublée longtemps dans sa solitude. Me voilà bien définitivement Octave de Saville, s'écria le comte lorsque la vieille femme fut partie. Sa mère me reconnaît et ne devine pas une âme étrangère sous l'épiderme de son fils. Je suis donc à jamais peut-être claquemuré dans cette enveloppe. Quelle étrange prison pour un esprit que le corps d'un autre. Il est dur, pourtant, de renoncer à être le comte Olaf Labinski, de perdre son blason, sa femme, sa fortune, et de se voir réduit à une chétive existence bourgeoise. Oh, je la déchirerais pour en sortir, cette peau de Nessus qui s'attache à mon moi. Je ne la rendrai qu'en pièces à son premier possesseur. Si je retournais à l'hôtel, car je n'ai plus de vigueur dans cette robe de chambre de malade. Voyons, cherchons, car il faut que je sache un peu la vie de cet Octave de Saville, qui est moi maintenant. Et il essaya d'ouvrir le portefeuille. Le ressort, touché par hasard, céda, et le comte tira des poches de cuir, d'abord plusieurs papiers, noircis d'une écriture serrée et fine, ensuite un carré de vélin. Sur le carré de vélin, une main peu habile mais fidèle avait dessiné, avec la mémoire du cœur et la ressemblance que n'atteignent pas toujours les grands artistes, un portrait au crayon de la comtesse Praskovilabinska, qu'il était impossible de ne pas reconnaître du premier coup d'œil. Le comte demeura stupéfait de cette découverte. À la surprise, succéda un furieux mouvement de jalousie. Comment le portrait de la comtesse se trouvait-il dans le portefeuille secret de ce jeune homme inconnu? Mais d'où lui venait-il? Qui l'avait fait? Qui l'avait donné? Cette Praskovie si religieusement adorée serait-elle descendue de son ciel d'amour dans une intrigue vulgaire? Quelle raillerie infernale l'incarnait, lui, le mari, dans le corps de l'amant de cette femme jusque-là crue si pure? Après avoir été l'époux, il allait être le galant. Sarcastique métamorphose, renversement de position à devenir fou. Il pourrait se tromper lui-même. Être à la fois Clitandre et Georges Dandin. Toutes ces idées bourdonnaient tumultueusement dans son crâne. Il sentait sa raison près de s'échapper, et il fit, pour reprendre un peu de calme, un effort suprême de volonté. Sans écouter Jean qui l'avertissait que le déjeuner était servi, il continua avec une trépidation nerveuse l'examen du portefeuille mystérieux. Les feuillets composaient une espèce de journal psychologique, abandonné et repris à diverses époques. En voici quelques fragments, dévorés par le comte avec une curiosité anxieuse. Jamais elle ne m'aimera, jamais, jamais. J'ai lu dans ses yeux si doux ce mot si cruel que Dante n'a pas trouvé de plus dur pour l'inscrire sur les portes de bronze de la cité dolente. Perdez tout espoir. Mais qu'ai-je fait à Dieu pour être damné vivant? Demain, après-demain, toujours ce sera la même chose. Les astres peuvent entrecroiser leurs orbes, les étoiles en conjonction former des nœuds. Rien dans mon sort ne changera. D'un mot, elle a dissipé le rêve. D'un geste, brisé l'aile à la chimère. Les combinaisons fabuleuses des impossibilités ne m'offrent aucune chance. Les chiffres rejeté un milliard de fois dans la roue de la fortune, n'en sortirai pas. Il n'y a pas de numéro gagnant pour moi. Malheureux que je suis. Je sais que le paradis m'est fermé, et je reste stupidement assis au seuil, le dos appuyé à la porte qui ne doit pas s'ouvrir, et je pleure en silence, sans secousse, sans effort, comme si mes yeux étaient des sources d'eau vive. Je n'ai pas le courage de me lever et de m'enfoncer au désert immense ou dans la babel tumultueuse des hommes. Quelquefois, quand la nuit je ne puis dormir, je pense à Praskovie. Si je dors, j'en rêve. Oh, qu'elle était belle ce jour-là, dans le jardin de la Villa Salviati à Florence. Cette robe blanche et ses rubans noirs. C'était charmant et funèbre, le blanc pour elle, le noir pour moi. Quelquefois, les rubans remués par la brise formaient une croix sur ce fond d'éclatante blancheur. Un esprit invisible disait tout bas la messe de mort de mon cœur. Si quelque catastrophe inouïe mettait sur mon front la couronne des empereurs et des califes, si la terre saignait pour moi ses veines d'or, si les mines de diamants de Golconde et de Visapour me laissaient fouiller dans leurs gangues étincelantes, si la lyre de Byron résonnait sous mes doigts, si les plus parfaits chefs-d'œuvre de l'art antique et moderne me prêtaient leur beauté, si je découvrais un monde, eh bien, je n'en serais pas plus avancé pour cela. À quoi tient la destinée? J'avais envie d'aller à Constantinople, je ne l'aurais pas rencontré. Je reste à Florence, je la vois et je meurs. Je me serais bien tué, mais elle respire dans cet air où nous vivons, et peut-être ma lèvre avide aspirera-t-elle, ô bonheur ineffable, une effluve lointaine de ce souffle embaumé. Et puis l'on assignerait à mon âme coupable une planète d'exil, et je n'aurais pas la chance de me faire aimer d'elle dans l'autre vie. Être encore séparé là-bas, elle au paradis, moi en enfer. Pensée accablante. Pourquoi faut-il que j'aime précisément la seule femme qui ne peut m'aimer? D'autres qu'on dit belles, qui étaient libres, me souriaient de leur sourire le plus tendre et semblaient appeler un aveu qui ne venait pas. Oh, qu'il est heureux, lui! Quelle sublime vie antérieure Dieu récompense-t-il en lui par le don magnifique de cet amour? Il était inutile d'en lire davantage. Le soupçon que le comte avait pu concevoir à l'aspect du portrait de Praskovie s'était évanoui dès les premières lignes de ses tristes confidences. Il comprit que l'image chérie, recommencée mille fois, avait été caressée loin du modèle avec cette patience infatigable de l'amour malheureux et que c'était la Madone d'une petite chapelle mystique devant laquelle s'agenouillait l'adoration sans espoir. Mais si cette Octave avait fait un pacte avec le diable pour me dérober mon corps et surprendre sous ma forme l'amour de Praskovie, l'invraisemblance au XIXe siècle d'une pareille supposition la fit bientôt abandonner au comte, qu'elle avait cependant étrangement troublée. Souriant lui-même de sa crédulité, il mangea, refroidi, le déjeuner servi par Jean, s'habilla et demanda la voiture. Lorsqu'on eut attelé, il se fit conduire chez le docteur Balthazar Cherbonneau. Il traversa ces salles où la veille il était entré, s'appelant encore le comte Olaf Labinski, et d'où il était sorti, salué par tout le monde du nom d'Octave de sa ville. Le docteur était assis, comme à son ordinaire, sur le divan de la pièce du fond, tenant son pied dans sa main et paraissait plongé dans une méditation profonde. Au bruit des pas du comte, le docteur releva la tête. « Oh, c'est vous, mon cher Octave. Ah, j'allais passer chez vous. Mais c'est bon signe quand le malade vient voir le médecin. » « Mais toujours Octave, dit le comte. Oh, je crois que j'en deviendrai fou de rage. » Puis, se croisant les bras, il se plaça devant le docteur et le regardant avec une fixité terrible. « Vous savez bien, monsieur Balthazar, cher Bonneau, que je ne suis pas Octave, mais le comte Olaf Labinski, puisque hier soir, vous m'avez ici même volé ma peau au moyen de vos sorcelleries exotiques. » À ces mots, le docteur partit d'un énorme éclat de rire, se renversa sur ses coussins et se mit les poings aux côtés pour contenir les convulsions de sa gaieté. « Modéré, docteur, cette joie intempestive dont vous pourriez vous repentir. Je parle sérieusement. Tant pis, tant pis. Cela prouve que l'anesthésie et l'hypocondrie pour laquelle je vous soignais se tournent en démence. Faudra changer le régime, voilà tout. Mais je ne sais à quoi tient, docteur du diable, que je vous étrangle de mes mains, cria le comte en s'avançant vers cher Bonneau. Le docteur sourit de la menace du comte, qu'il toucha du bout d'une petite baguette d'acier. Olaf de Saville reçut une commotion terrible et crut qu'il avait le bras cassé. « Oh ! Nous avons les moyens de réduire les malades lorsqu'ils se regimbent, dit-il en laissant tomber sur lui ce regard froid comme une douche qui dompte les fous et fait s'aplatir les lions sur le ventre. « Retournez chez vous, prenez un bain. » Cette surexcitation se calmera. Olaf de Saville, étourdi par la secousse électrique, sortit de chez le docteur Charbonneau, plus incertain et plus troublé que jamais. Il se fit conduire à Passy chez le docteur B pour le consulter. « Je suis, dit-il au médecin célèbre, en proie à une hallucination bizarre. Lorsque je me regarde dans une glace, ma figure ne me paraît pas avec ses traits habituels. La forme des objets qui m'entourent est changée. Je ne reconnais ni les murs ni les meubles de ma chambre. Il me semble que je suis une autre personne que moi-même. Sous quel aspect vous voyez-vous ? Demanda le médecin. L'erreur peut venir des yeux ou du cerveau. Je me vois des cheveux noirs, des yeux bleus foncés, un visage pâle encadré de barbe. Non, un signalement de passeport ne serait pas plus exact. Il n'y a chez vous ni hallucination intellectuelle, ni perversion de la vue. Vous êtes en effet tel que vous dites. Mais non ! J'ai réellement les cheveux blonds, les yeux noirs, le teint hâlé et une moustache effilée à la hongroise. Ici, répondit le médecin, commence une légère altération des facultés intellectuelles. Et pourtant, docteur, je ne suis nullement fou. Sans doute, il n'y a que des sages qui viennent chez moi tout seuls. Un peu de fatigue, quelque excès d'étude ou de plaisir aura causé ce trouble. Vous vous trompez, la vision est réelle, l'idée est chimérique. Au lieu d'être un blond qui se voit brun, vous êtes un brun qui se croit blond. Et pourtant, je suis sûr d'être le comte Olaf Labinski, et tout le monde depuis hier m'appelle Octave de Saville. « C'est précisément ce que je disais, » répondit le docteur. « Vous êtes monsieur de Saville, et vous vous imaginez être monsieur le comte Labinski, que je me souviens d'avoir vu et qui en effet est blond. Cela explique parfaitement comment vous vous trouvez une autre figure dans le miroir. Cette figure qui est la vôtre ne répond point à votre idée intérieure et vous surprend. Réfléchissez à ceci. » Que tout le monde vous nomme monsieur de Saville et par conséquent ne partage pas votre croyance. Venez passer une quinzaine de jours ici Les bains, le repos, les promenades sous les grands arbres dissiperont cette influence fâcheuse. Le comte baissa la tête et promit de revenir. Il ne savait plus quoi croire. Il retourna à l'appartement de la rue Saint-Lazare et vit par hasard sur la table la carte d'invitation de la comtesse Labinska qu'Octave avait montrée à M. Charbonneau. « Avec ce talisman, s'écria-t-il, demain, je pourrai la voir. » Chapitre 9. Lorsque les valets eurent porté à sa voiture le vrai comte Labinski, chassé de son paradis terrestre par le faux ange gardien debout sur le seuil, l'Octave, transfiguré, rentra dans le petit salon blanc et or pour attendre le loisir de la comtesse. Appuyé contre le marbre blanc de la cheminée dont l'âtre était rempli de fleurs, il se voyait répété au fond de la glace placée en symétrie sur la console à pieds arabiscotés et dorés. Quoiqu'il fût dans le secret de sa métamorphose, ou, pour parler plus exactement de sa transposition, il avait peine à se persuader que cette image si différente de la sienne fût le double de sa propre figure, et il ne pouvait détacher ses yeux de ce fantôme étranger qui était cependant devenu lui. Il se regardait et voyait un autre. Involontairement, il cherchait si le comte Olaf n'était pas accoudé près de lui à la tablette de la cheminée, projetant sa réflexion au miroir. Mais il était bien seul. Le docteur Charbonneau avait fait les choses en conscience. Au bout de quelques minutes, Octave Labinski ne songea plus au merveilleux avatar qui avait fait passer son âme dans le corps de l'époux de Praskovie. Ses pensées prirent un cours plus conforme à sa situation. Cet événement incroyable, en dehors de toutes les possibilités, et que l'espérance la plus chimérique n'eût pas osé rêver en son délire, était arrivé. Il fallait se trouver en présence de la belle créature adorée, et il ne le repousserait pas. La seule combinaison qui put concilier son bonheur avec l'immaculée vertu de la comtesse s'était réalisée. Près de ce moment suprême, son âme éprouvait des transes et des anxiétés affreuses. Les timidités du véritable amour la faisaient défaillir, comme si elle habitait encore la forme dédaignée d'Octave de Saville. L'entrée de la femme de chambre mit fin à ce tumulte de pensées qui se combattait. À son approche, il ne put maîtriser un soubresaut nerveux, et tout son sang afflua vers son cœur lorsqu'elle lui dit « Madame la comtesse peut à présent recevoir monsieur. » Octave Labinski suivit la femme de chambre, car il ne connaissait pas les êtres de l'hôtel et ne voulait pas trahir son ignorance par l'incertitude de sa démarche. La femme de chambre l'introduisit dans une pièce assez vaste, un cabinet de toilette orné de toutes les recherches du luxe le plus délicat. Une suite d'armoires d'un bois précieux, sculptées par Knecht et Linhart, et dont les battants étaient séparés par des colonnes torses, autour desquelles s'enroulaient en spirale de légères brindilles, de convolvulus aux feuilles en cœur et aux fleurs en clochette découpées avec un art infini, formait une espèce de boiserie architecturale, un portique d'ordre capricieux, d'une élégance rare et d'une exécution achevée. Dans ces armoires étaient serrées les robes de velours et de moire, les cachemires, les mantelets, les dentelles, les pelisses de marbre zibeline, de renard bleu, les chapeaux aux mille formes, tout l'attirail de la jolie femme. En face se répétait le même motif, avec cette différence que les panneaux peints étaient remplacés par des glaces, jouant sur des charnières comme des feuilles de paravent, de façon que l'on pût s'y voir de face, de profil, par derrière, et juger de l'effet d'un corsage ou d'une coiffure. Sur la troisième face régnait une longue toilette plaquée d'albâtre onyx, où des robinets d'argent dégorgeaient l'eau chaude et froide, dans d'immenses jattes du Japon, enchâssées par des découpures circulaires du même métal. Des flacons en cristal de bohème, qui, au feu des bougies, étincelaient comme des diamants, et des rubis contenaient les essences et les parfums. Les murailles et le plafond étaient capitonnés de satin vert d'eau, comme l'intérieur d'un écrin. Un épais tapis de Smyrne aux teintes moelleusement assorties ouatait le plancher. Au milieu de la chambre, sur un socle de velours vert, était posé un grand coffre de forme bizarre en acier de Khorasan, ciselé, niellé et ramagé d'arabesques d'une complication à faire trouver simple les ornements de la salle des ambassadeurs à l'Alhambra. L'art oriental semblait avoir dit son dernier mot dans ce travail merveilleux auquel les doigts de fée des Péris avaient dû prendre part. C'était dans ce coffre que la comtesse Praskovi-Labinska enfermait ses parures, des joyaux dignes d'une reine, et qu'elle ne mettait que fort rarement, trouvant avec raison qu'il ne valait pas la place qu'il couvrait. Elle était trop belle pour avoir besoin d'être riche. Son instinct de femme le lui disait. Aussi ne leur faisait-elle voir les lumières que dans les occasions solennelles, où le faste héréditaire de l'antique maison Labinski devait paraître avec toute sa splendeur. Jamais diamants ne furent moins occupés. Près de la fenêtre, dont les amples rideaux retombaient en plis puissants, devant une toilette à la duchesse, en face d'un miroir que lui penchaient deux anges sculptés par Madame de Fauveau avec cette élégance longue et fluette qui caractérise son talent, illuminé de la lumière blanche de deux torchères à six bougies, se tenait assise la comtesse Praskovi-Labinska, radieuse de fraîcheur et de beauté. Un burnous de Tunis d'une finesse idéale, rubané de raies bleues et blanches, alternativement opaques et transparentes, l'enveloppait comme un nuage souple. La légère étoffe avait glissé sur le tissu satiné des épaules et laissait voir la naissance et les attaches d'un col qui eût fait paraître gris, le col de neige du cygne. Dans l'interstice des plis bouillonnais et les dentelles d'un peignoir de batiste parurent nocturnes que ne retenait aucune ceinture. Les cheveux de la comtesse étaient défaits et s'allongeait derrière elle en nappes opulentes, comme le manteau d'une impératrice. Certes, les torsades d'or fluide dont la Vénus Aphrodite exprimait des perles, agenouillée dans sa conque de nacre lorsqu'elle sortit comme une fleur des mers de l'azur ionien, était moins blonde, moins épaisse, moins lourde. Mêlée l'ambre du Titien et l'argent de Paul Véronèse avec le vernis d'or de Rembrandt, faites passer le soleil à travers la topaze, et vous n'obtiendrez pas encore le ton merveilleux de cette opulente chevelure qui semblait envoyer la lumière au lieu de la recevoir et qui eût mérité mieux que celle de Bérénice de flamboyer constellation nouvelle parmi les anciens astres. Deux femmes la divisaient, la polissaient, la crépelaient et l'arrangeaient en boucles soigneusement massées pour que le contact de l'oreiller ne la froissât pas. Pendant cette opération délicate, la comtesse faisait danser au bout de son pied une babouche de velours blanc brodée de canotis d'or, petite à rendre jalouses les canounes et les odalisques du padishah. Parfois, rejetant les plis soyeux du burnous, elle découvrait son bras blanc et repoussait de la main quelques cheveux échappés avec un mouvement d'une grâce mutine. Ainsi, abandonnée dans sa pose nonchalante, elle rappelait ces sveltes figures de toilette grecque qui ornent les vases antiques et dont aucun artiste n'a pu retrouver le pur et suave contour, la beauté jeune et légère. Elle était mille fois plus séduisante encore que dans le jardin de la Villa Salviati à Florence. Et si Octave n'avait pas été déjà fou d'amour, il le serait infailliblement devenu. Mais, par bonheur, on ne peut rien ajouter à l'infini. Octave Labinski sentit à cet aspect, comme s'il eût vu le spectacle le plus terrible, ses genoux s'entrechoquer et se dérober sous lui. Sa bouche se sécha et l'angoisse lui étreignit la gorge comme la main d'un tugue. Des flammes rouges tourbillonnèrent autour de ses yeux, cette beauté le médusait. Il fit un effort de courage, se disant que ses manières effarées et stupides, convenables à un amant repoussé, seraient parfaitement ridicules de la part d'un mari, quel qu'est le prix qu'il pût être au corps de sa femme, et il marcha assez résolument vers la comtesse. « Ah, c'est vous, Olaf, quand vous rentrez tard ce soir ?» dit la comtesse sans se retourner, car sa tête était maintenue par les longues nattes que tressaient ses femmes, et la dégageant des plis du burnous, elle lui tendit une de ses belles mains. Octave Labinski saisit cette main plus douce et plus fraîche qu'une fleur, la porta à ses lèvres et y imprima un long, un ardent baiser. Toute son âme se concentrait sur cette petite place. Nous ne savons quelle délicatesse de sensitive, quel instinct de pudeur divine, quelle intuition irraisonnée du cœur, avertit la comtesse. Mais un nuage rose couvrit subitement sa figure, son col et ses bras, qui prirent cette teinte dont se colore sur les hautes montagnes la neige vierge surprise par le premier baiser du soleil. Elle tressaillit et dégagea lentement sa main, demi-fâchée, demi-honteuse. Les lèvres d'Octave lui avaient produit comme une impression de fer rouge. Cependant, elle se remit bientôt et sourit de son enfantillage. « Vous ne me répondez pas, cher Olaf. Savez-vous qu'il y a plus de 6 heures que je ne vous ai vu ? Vous me négligez, dit-elle d'un ton de reproche. Autrefois, vous ne m'auriez pas abandonné ainsi toute une longue soirée. Avez-vous pensé à moi seulement ?» Toujours, répondit Octave Labinski. Oh non, pas toujours. Je sens quand vous pensez à moi, même de loin. Ce soir, par exemple, j'étais seul, assis à mon piano, jouant un morceau de Weber et berçant mon ennui de musique. Votre âme a voltigé quelques minutes autour de moi, dans le tourbillon sonore des notes, puis elle s'est envolée, je ne sais où, sur le dernier accord et n'est pas revenue. Ne mentez pas. Je suis sûr de ce que je dis. » Praskovi, en effet, ne se trompait pas. C'était le moment où, chez le docteur Balthazar Cherbonneau, le comte Olaf Labinski se penchait sur le verre d'eau magique, évoquant une image adorée de toute la force d'une pensée fixe. À dater de là, le comte, submergé dans l'océan sans fond du sommeil magnétique, n'avait plus eu ni idée, ni sentiment, ni volition. Les femmes, ayant achevé la toilette nocturne de la comtesse, se retirèrent. Octave Labinski restait toujours debout, suivant Praskovi d'un regard enflammé. Gênée et brûlée par ce regard, la comtesse s'enveloppa de son burnous comme la polymnie de sa draperie. Sa tête seule apparaissait au-dessus des plis blancs et bleus, inquiète mais charmante. Bien qu'aucune pénétration humaine n'eût pu deviner le mystérieux déplacement d'âme opéré par le docteur Cherbonneau au moyen de la formule du sannyasi Brahmalungum, Praskovi ne reconnaissait pas dans les yeux d'Octave Labinski l'expression ordinaire des yeux d'Olaf, celle d'un amour pur, calme, égal, éternel, comme l'amour des anges. Une passion terrestre incendiait ce regard qui la troublait et la faisait rougir. Elle ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé, mais il s'était passé quelque chose. 1000 suppositions étranges lui traversèrent la pensée. N'était-elle plus pour Olaf qu'une femme vulgaire, désirée pour sa beauté comme une courtisane? L'accord sublime de leurs âmes Avait-il été rompu par quelque dissonance qu'elle ignorait? Olaf en aimait-il une autre? Les corruptions de Paris avaient-elles souillé ce chaste cœur? Elle se posa rapidement ces questions, sans pouvoir y répondre d'une manière satisfaisante, et se dit qu'elle était folle. Mais au fond, elle sentait qu'elle avait raison. Une terreur secrète l'envahissait, comme si elle eût été en présence d'un danger inconnu, mais devinée par cette seconde vue de l'âme, à laquelle on a toujours tort de ne pas obéir. Elle se leva, agitée, nerveuse, et se dirigea vers la porte de sa chambre à coucher. Le faux comte l'accompagna, un bras sur la taille, comme Othello reconduisit Desdémone à chaque sortie dans la pièce de Shakespeare. Mais quand elle fut sur le seuil, elle se retourna, s'arrêta un instant, blanche et froide comme une statue, jeta un coup d'œil effrayé au jeune homme, entra, ferma la porte vivement et poussa le verrou. « Le regard d'Octave !» s'écria-t-elle en tombant à demi évanouie sur une causeuse. Quand elle eut repris ses sens, elle se dit « Mais comment se fait-il que ce regard dont je n'ai jamais oublié l'expression étincelle ce soir dans les yeux d'Olaf? Comment ai-je vu la flamme sombre et désespérée luire à travers les prunelles de mon mari? Mais Octave est-il mort? Est-ce son âme qui a brillé un instant devant moi comme pour me dire adieu avant de quitter cette terre? Olaf, Olaf, si je me suis trompé, si j'ai cédé follement à de vaines terreurs, tu me pardonneras. Mais si je t'avais accueilli ce soir, j'aurais cru me donner à un autre. » La comtesse s'assura que le verrou était bien poussé, alluma la lampe suspendue au plafond, se blottit dans son lit comme un enfant peureux avec un sentiment d'angoisse indéfinissable, et ne s'endormit que vers le matin. Des rêves incohérents et bizarres tourmentèrent son sommeil agité. Des yeux ardents, les yeux d'Octave, se fixaient sur elle du fond d'un brouillard et lui lançaient des jets de feu, pendant qu'au pied de son lit, une figure noire et sillonnée de rides se tenait accroupie, marbotant des syllabes d'une langue inconnue. Le comte Olaf parut aussi dans ce rêve absurde, mais revêtu d'une forme qui n'était pas la sienne. Nous n'essaierons pas de peindre le désappointement d'Octave lorsqu'il se trouva en face d'une porte fermée et qu'il entendit le grincement intérieur du verrou. Sa suprême espérance s'écroulait. Et quoi? Il avait eu recours à des moyens terribles, étranges. Il s'était livré à un magicien, peut-être à un démon, en risquant sa vie dans ce monde et son âme dans l'autre, pour conquérir une femme qui lui échappait, quoique livré à lui sans défense par les sorcelleries de l'Inde. Repoussé comme amant, il l'était encore comme mari. L'invincible pureté de Praskovie déjouait les machinations les plus infernales. Sur le seuil de la chambre à coucher, elle lui était apparue comme un ange blanc de Swedenborg foudroyant le mauvais esprit. Il ne pouvait rester toute la nuit dans cette situation ridicule. Il chercha l'appartement du comte et au bout d'une enfilade de pièces, il en vit une où s'élevait un lit aux colonnes d'ébène, aux rideaux de tapisserie, où parmi les ramages et les arabesques étaient brodés des blasons. Des panoplies d'armes orientales, des cuirasses et des casques de chevaliers atteints par le reflet d'une lampe jetait des lueurs vagues dans l'ombre. Un cuir de bohème gaufré d'or miroitait sur les murs. Trois ou quatre grands fauteuils sculptés, un bahut tout historié de figurines, complétait cet ameublement d'un goût féodal et qui n'eût pas été déplacé dans la grande salle de manoir gothique. Ce n'était pas de la part du comte frivole imitation de mode, mais pieux souvenir. Cette chambre reproduisait exactement celle qu'il habitait chez sa mère, et quoique l'on eût souvent raillé sur ce décor de cinquième acte, il avait toujours refusé d'en changer le style. Octave Labinski, épuisé de fatigue et d'émotion, se jeta sur le lit et s'endormit en maulissant le docteur Balthazar Cherbonneau. Heureusement, le jour lui apporta des idées plus riantes. Il se promit de se conduire désormais d'une façon plus modérée, d'éteindre son regard et de prendre les manières d'un mari. Aidé par le valet de chambre du comte, il fit une toilette sérieuse et se rendit d'un pas tranquille dans la salle à manger où madame la comtesse l'attendait pour déjeuner.